Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce matin pour cette rencontre avec Carole Fives et Joséphine Cardona. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Quelque chose à te dire, Carole, c'est publié chez Gallimard, Les corps solides. Joseph, c'est publié aux éditions Finitude. Et j'aimerais ce matin que grâce à ces deux livres, on en apprenne un peu plus sur votre façon de travailler, d'où viennent les histoires, comment vous imaginez, construisez vos personnages. Quelles autrices, auteurs vous accompagnent? Pourquoi est-ce qu'on choisit le « il », « elle » plutôt que le « tu » ou le « je » Carole, quelque chose à te dire, raconte l'histoire d'une romancière, Elsa Feuillet, qui va se retrouver, je vous laisserai raconter dans quelles circonstances, à vivre dans l'appartement d'une autrice qu'elle admire, Béatrice Blandy, morte, qui meurt au début du roman. Elsa va rencontrer son veuf, Thomas, et entretenir une relation avec lui, ou plutôt avec eux. Puisque, et on en parlera, Blandine est en réalité partout dans l'appartement de Thomas. Quelque chose à te dire, c'est un thriller psychologique. Quel a été le point de départ? Est-ce que c'est une envie de se confronter à ce genre qui a orienté le récit, ou est-ce que c'était l'envie de mettre en scène justement des romancières? Qu'est-ce qui a été la petite étincelle de départ?
Alors, bonjour. Eh ben, merci d'être là, parce que dimanche à 10h, c'est pas évident. On ouvre le bal, on a l'impression qu'on ouvre le bal aujourd'hui, là, à 10h du matin. Et voilà, donc oui, moi je suis partie vraiment de l'envie de rendre hommage aux romancières qui m'ont fait devenir autrice, romancière à mon tour. Et donc, en mettant en scène effectivement deux écrivaines, deux autrices. Et en essayant de mettre en scène la relation, moi, à la lecture et aux écrivaines qui m'ont inspirée, et comment je suis passée de lectrice, en fait, à autrice, comment le déclic s'est fait. Donc pour ça, j'ai mis en scène une autrice qui incarnerait l'autrice idéale, peut-être un peu un mélange d'Annie Ernaux, Nathalie Sarraute, de Marguerite Duras, je sais pas, d'autres autrices que j'admire, qui est incarnée par Béatrice Blandy, cette autrice décédée prématurément, et puis une autrice qui me ressemblerait un peu plus, Elsa, qui Elsa Feuillet, qui, comme son nom l'indique, ben, manque d'inspiration, et qui va petit à petit voilà, donc, s'approprier les lieux, le bureau et la vie de son autrice favorite. Donc, donc c'est vraiment à la limite entre le plagiat, l'usurpation d'identité et l'inspiration. Parce que voilà, et c'est comment l'inspiration vient, comment tout ça se fait. Donc c'est vraiment un thriller, mais sur la création littéraire.
Complètement. Et Elsa est un moment de sa vie où elle est complètement à sec, justement. Et c'est Thomas qui lui dit qu'il faut que le terreau se refasse et que c'est pas grave s'il y a un moment où il y a rien qui vient. Est-ce que vous vous êtes vous-même retrouvé dans cette situation d'avoir l'impression d'avoir, comme elle dit, d'avoir brûlé les ultimes cartouches de sa vie pour injecter des choses dans ses romans?
Oui, c'est vrai que c'est mon sixième roman. J'ai écrit aussi quelques romans jeunesse à l'école des loisirs. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on peut autant les premiers romans sont nécessaires, arrivent comme ça tout d'un jet sans qu'on vraiment. Enfin, en tout cas, ça s'est passé comme ça pour moi. Et autant ensuite, on peut se poser la question, comme je me la posais avant, parce que j'ai été peintre pendant longtemps aussi avant, la question du que peindre ou du qu'écrire, enfin, la question du sujet, en fait. Qui n'est pas véritablement une question quand on est habité par son sujet, quand on a vraiment des choses à dire, quand on est dans la nécessité absolue d'écrire, mais qui peut le devenir quand on a écrit plusieurs romans, se dire bon, voilà, quand on est un peu épuisé, effectivement, les différents sujets de, pas de sa vie, je dirais, mais les sujets qui nous importaient, en tout cas les sujets nécessaires. Alors, elle en a, et puis il y a aussi une période très délicate entre deux textes pour un écrivain. On peut pas. Il y en a qui pose une ligne qui s'arrête à 9h23 et qui recommence un nouveau roman à 9h24, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de gens pour qui il faut que le terreau se refasse entre deux romans. Et donc, cette période est toujours un peu trouble pour un auteur, parce qu'on se dit est-ce que je vais y arriver à nouveau? Est-ce que c'était. Même pour nous, c'est toujours un mystère comment le roman arrive, comment à un moment donné on arrive à passer 200 pages avec des personnages et nous-mêmes à avoir envie de les écrire, parce que pour que les lecteurs aient envie de les lire, il faut que nous-mêmes on s'éclate vraiment à les écrire. Donc à un moment donné, c'est toujours mystérieux la façon dont ça se passe. Donc elle est dans cette situation-là, effectivement, Elsa, au début.
Joseph, votre roman raconte l'histoire d'Anna et de son fils Léo, qui a 13 ans. Anna, elle vend des poulets sur les marchés avec un camion rôtissoir. Et le roman commence avec un accident, puisqu'elle heurte un sanglier. Le camion est foutu et l'assurance ne fonctionne pas. Plus d'argent et une situation catastrophique pour eux deux. Je vous entendais dire dans un podcast récemment que les idées de romans, il y en avait des dizaines par mois qui arrivaient, mais qu'heureusement, 90% de ces idées s'évaporaient. À l'origine des corps solides, il y a ce jeu auquel va participer Anna, qui existe réellement. Je vais vous laisser nous dire ce dont il s'agit. Comment est-ce que la découverte de ce jeu, je crois que c'est une amie qui vous en a parlé, a cheminé en vous pour, 5 ans après, je crois, faire que vous vous êtes lancé dans l'écriture des corps solides.
Ben c'est bien parce qu'on est un petit peu dans le laboratoire des écrivains. Donc, effectivement, c'est vrai que personnellement, je fonctionne comme ça. C'est assez étrange. Il y a quelque chose, effectivement, vous savez, le « et si je... » J'écrivais là-dessus. Et si ça se passait, voilà. Mais des choses qui vous traversent comme ça. Et puis, il y a des choses qui restent. Et c'est vrai qu'entre une chose que je peux entendre ou voir ou lire ou rencontrer, il y a des événements comme ça qui s'imprègnent en vous et qui font leur chemin. Et puis, tout d'un coup, il y a comme une sorte de poussée comme ça, un petit peu, vous savez, les moraines des glaciers qui descendent. Et puis, le moment arrive. Et puis, moi, j'ai toujours ce souci de trouver la façon de raconter en fonction de l'histoire, de son sujet, de l'adéquation de la forme et du fond qui doit trouver une sorte de symbiose comme ça. Et quand je pense avoir trouvé le point de jonction, je commence à écrire mon histoire. Alors effectivement, comme il arrive souvent, le sujet, c'est un de ceux qui est resté. Et alors il y a 2-3 fois, je prends une petite note, quelque chose, ça reste dans un coin comme ça, puis le moment arrive de l'écrire. Et effectivement, ce jeu a réellement existé au Texas, à Houston. Un concessionnaire Nissan va faire ce jeu en 1990 exactement. Quelque chose qui reste très local, très confiné. Moi, j'en fais quelque chose au niveau national, d'un jeu de télé-réalité qui est filmé 24 heures sur 24, etc. Il est très simple. Il y a 20 concurrents autour d'un gros, énorme 4x4. Et les 20 concurrents posent la main dessus. Et le dernier qui lâche remporte la voiture. Alors moi, j'ai ajouté des petits trucs un petit peu pervers. Comme ça, il y a déjà la clé de contact sur la bagnole.
Le plein est fait et tout.
Et réellement, le dernier qui reste, ou la dernière... part avec la voiture. Il y a une rampe qui est là et cette voiture vaut à peu près un peu plus de 50 000 euros. Et donc, voilà, Anna, l'héroïne, après toute une série de vicissitudes, bien qu'elle vit avec son fils, elle est veuve, ils sont au bord de l'océan, ça se passe dans le coin du sud-ouest, je sais très bien où c'est, je ne donne pas le nom, mais vous reconnaîtrez peut-être, ça peut être un peu dans les Landes, enfin bref, c'est au bord de ces grandes plages. Anna vit avec son fils un peu... elle était surfeuse avant, pour une raison qu'on comprend en lisant, elle ne mettra plus jamais les mains, les pieds, enfin un corps sur une planche. Son fils, par contre, fait. Ils vivent sur la ligne de flottaison, de manière un petit peu en marge, une marginalité aussi un petit peu qui d'abord a été voulue, puis qui ensuite est là par nécessité. Et puis, comme beaucoup de gens, en fait, vous voyez ça, notamment le Médoc, je le connais bien, j'ai vécu aussi à Bordeaux un certain nombre d'années, etc., ben, il suffit d'un petit rien pour que tout bascule. Et en plus, voilà, même d'un point de vue littéraire, c'est toujours l'élément déclencheur, l'élément perturbateur qui fait que l'histoire commence. Si tout va bien, il n'y a pas grand-chose à raconter. C'est malheureusement, on raconte toujours quand il y a des problèmes, parce que sinon, le bonheur et l'état d'ataraxie est très difficile à raconter. Et donc, page 2, effectivement, il y a cet accident. Quelque chose presque d'un peu mythologique, mais ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est certains lecteurs avec ce rencontre avec cette lait de 80 kilos, et effectivement, ça vous bousille la bagnole. Et en plus, le camion rôtissoir finit dans le fossé, prend feu. Poulet rôti 2 fois. Et voilà, à partir de là, c'est une course contre... il faut payer, ils vivent dans un petit bungalow, il faut payer les traites, il y a l'assurance, il y a le téléphone. Et voilà. Alors, on n'est pas dans un misérabilisme. Hein. On est sur une femme qui est.
Et au début,
fils.
C'est pour ça que je dis au début, elle refuse de participer à ce jeu. Elle refuse de vendre son âme et de bafouer sa dignité.
Ah, voilà. Et voilà. Il y a toute une série de choses qui font qu'elle va être amenée et choisie à jouer dans ce jeu. Et justement, si on devait, David Mamet, le fameux dramaturge, dit toujours, est-ce qu'on devrait peut-être pouvoir résumer ce qu'on écrit, enfin une idée, avec un mot? Alors je dirais que ça serait le roman sur la dignité. Et l'idée du surf, qui est là en filigrane, c'est celle de rester debout. Parce que quand vous... Moi, je m'y suis mis il y a quelques années, maintenant, c'est magnifique, vous recomposez complètement la verticalité de l'humain. Vous commencez à plat ventre, après vous êtes à quatre pattes, puis vous êtes sur vos deux jambes. Il y a quelque chose de... On revisite depuis l'enfance. Voilà. Et finalement, c'est ça, sûrement. C'est rester debout, c'est ce que Anna essaie d'inculquer à son fils Léo.
Voilà. Alors même que précisément, c'est-à-dire ceux qui organisent le jeu jouent sur le désespoir total des gens, parce qu'il y a 20 participants qui sont choisis.
Oui.
Il y a un ancien militaire, une influenceuse, un syndicaliste qui a travaillé 35 ans dans les ateliers chez ArcelorMittal. Leurs motivations sont très différentes, mais vous écrivez, seul dénominateur commun, le désarroi, on puisera dans la frange moyenne du désespoir, du découragement, de l'échec, de l'épuisement, de l'usure et de la débilitation. L'art de choisir des concurrents qui n'ont pas touché le fond absolu, des potentiellement résilients. Et en réalité, ceux, celles, qui vont tenir jusqu'au bout, ce sont les plus désespérés. Et c'est là où, justement, vous prenez le contre-pied en faisant un roman sur la dignité à partir de ce cynisme absolu à la fois des politiques, mais surtout du monde économique.
Oui, parce qu'on est avec ces deux personnages, on avance avec eux dans l'histoire. Et puis, ponctuellement, vous avez des chapitres où on est dans les sphères du financier, de l'économique et du politique qui organisent ce jeu. On est dans une légère anticipation.
Avec une femme présidente.
On a une présidente, on a effectivement une crise économique qui est aggravée. Et bon, maintenant, on va dire qu'il y a 2 ans que ce livre, je l'ai écrit, hein, parce que le temps que vous finissez de l'écrire, puis qu'il soit publié, etc. Puis je suis en train de voir que, ben oui, maintenant, il y a en plus un problème avec l'essence. Entre-temps, il y a une guerre qui a éclaté, voilà, etc. Donc, il y a quelque chose de l'utilisation du désarroi. Et ça, c'est quelque chose, parce que souvent, c'est en écrivant qu'on comprend exactement, s'approche exactement du noyau dur de ce qu'on veut faire. Et puis c'est aussi souvent quand on a fini qu'on commence à prendre un recul et qu'on comprend. Et tout d'un coup, je me dis, mais tiens, c'est comme en 1929, aux États-Unis, il y a eu ce krach boursier, et on suivit pendant des années des jeux complètement débiles qu'on a proposés aux gens, dont le plus connu, c'est le marathon de danse. Hein. On achève bien les chevaux, soit vous avez vu le film ou lu le livre, où on fait danser des gens jusqu'à ce qu'ils s'écroulent. Et on profite finalement de cette crise, on profite de ce désarroi pour pouvoir utiliser ces gens à des fins de promotion, à des fins de relance économique, etc. Et c'est là où entre en jeu le cynisme des décideurs, finalement.
Et on va parler évidemment de ces décideurs et de la situation dans laquelle se retrouve la présidente, la reine des abeilles, qui est plutôt justement dans une démarche à vouloir aller vers une société plus verte, en tout cas à être très engagée du côté de l'écologie, qui pourtant va accepter l'organisation de ce jeu. On va y revenir, mais je reviens sur cette idée justement de cette ligne de flottaison et de la situation dans laquelle se retrouvent Anna et Léo. Carole, dans votre roman, je le disais, Elsa va se retrouver à habiter chez Thomas. Et il y a quelque chose qui est extrêmement important dans votre roman, même si ce n'est jamais appuyé, c'est justement la différence de classe sociale entre ces deux personnages. Elsa qui va d'un seul coup se retrouver dans un appartement où il y a un Picasso au mur, où il y a énormément d'œuvres d'art, où elle se retrouve avec Thomas dans des soirées, lui qui est producteur de cinéma, donc avec, et où elle sent bien qu'elle n'appartient pas totalement à ce monde.
Oui, c'est vrai, c'est aussi une description du milieu éditorial et littéraire parisien et du milieu du cinéma parisien, vu par une écrivaine de province qui effectivement, Elsa, vient de la classe moyenne. Et l'autrice qu'elle admirait tellement, Béatrice Blandy, elle était une écrivaine, fille de collectionneur d'art, de grands industriels, et qui vient d'un milieu hyper privilégié, qui habite dans un hôtel particulier, à côté du Louvre, etc. Et donc, c'est pas du tout cette écrivaine qu'elle admirait tant dans ses textes. Elle va découvrir son milieu, ses conditions de travail, etc. Et elle va, et donc, on découvre aussi, le lecteur découvre avec Elsa ce monde. Et ça m'intéressait de parler de ce que c'est qu'être écrivain. Il y a différents statuts, quoi. Qu'être écrivain de province, d'arriver par exemple à Paris en ayant un rendez-vous sur France Culture pour une émission et d'être avec sa petite valise, de flipper parce qu'on ne sait pas où est la maison de la radio. Enfin, voilà, d'être une écrivaine qui, la veille, va peut-être dîner avec le journaliste qui va l'interviewer le lendemain. Donc, cette différence de vraiment de... Alors, ils ont aussi une grande différence d'âge, une différence de milieu social. Enfin, vraiment, tout les oppose. Et puis, finalement, il va quand même y avoir cette rencontre qui, d'ailleurs, paraît totalement improbable. Et c'est vraiment Elsa qui va devoir s'adapter au milieu de Thomas. Bon, bien sûr, c'est plus facile dans ce sens-là. Mais c'est toujours elle qui parce qu'elle a vraiment cet intérêt. Ce qui l'attire vraiment là-dedans, c'est tout ce qui est brillant, tout ce qui est effectivement... Enfin, c'est avant tout le talent de Béatrice, mais c'est aussi voilà, le milieu dans lequel elle vivait. Et puis, ce luxe, ses tableaux, ses œuvres d'art partout, sa bibliothèque, ses photos, son bureau dont l'accès lui est interdit. Et donc, elle est, voilà, elle est très attirée par tout ça.
Joseph, Anna, c'est votre première héroïne femme, on disait dans le livre de Carole, on a ces deux autrices, on a évidemment le personnage de Thomas, mais ce sont vraiment les deux autrices qui sont au cœur du roman. Anna, c'est votre première héroïne. Dans La soustraction des possibles, il y avait un couple qui était au cœur du roman, mais là, c'est vraiment Anna qui est au cœur. Est-ce que vous diriez, comme le présentateur du jeu, enfin, je ne vais pas le crier parce que vous doublez les lettres pour montrer bien qui crie, mais je me dis qu'il est 10h du matin un dimanche, je ne vais pas le faire, mais qui dit le monde est féminin, le monde leur appartient, le monde vous appartient. Tiens, mesdames, et il y a sa co-animatrice qui tempère quand même en disant « Mais rappelons quand même que les femmes sont victimes de violences. » Donc là aussi, on voit il y a de l'humour partout, un humour cynique, mais qui décrit tellement bien aussi, mais à tout le temps dans votre roman et qui est extrêmement puissant. Mais ça, c'était pour presque anecdotique, cette citation. Mais par rapport à ce personnage d'Anna et le personnage féminin, c'était une évidence qu'il fallait que la personne qui participe à ce jeu que vous alliez suivre allait être une femme en duo avec un fils.
Oui, alors après, voilà, c'est toujours la même chose. On peut dire, tiens, c'est par opportunisme, parce que non. Ça m'a semblé très, 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 très évident dès le départ que ça devait être une femme avec un garçon et non pas le contraire, ou alors un père avec son fils. Il y a quelque chose par rapport aux difficultés et qui se mettent en place pour une femme particulièrement en plus. Je ne sais pas, il y a quelque chose d'assez intuitif. Après, c'est ça le privilège de d'écrire. C'est comme un comédien, on peut être multiple. On peut être, c'est pour ça que moi, quand il dit écriture féminine, masculine et tout, non, c'est soit un livre est bien écrit, et puis voilà, puis on s'en fout, et puis point barre. On peut être quelqu'un d'autre, on peut être pris et happé dans un roman d'un personnage qui n'est pas vous. Et quand on l'écrit, c'est pareil. Vous pouvez être un salaud, vous pouvez être jeune, vieux, une femme, quelqu'un de... Voilà, c'est assez mystérieux. Pourquoi, comment, c'est l'observation du monde, c'est des choses qui vous traversent. Et puis les choses voilà c'est bon quoi, c'est acquis, ça c'est pas voilà. Et donc par contre la figure du garçon, du jeune garçon,
il a l'âge de votre fils,
voilà, il a l'âge de mon fils, et puis il y a beaucoup de mon fils dans ce personnage de Léo. Et puis il y a beaucoup de choses qu'on fait du surf ensemble, enfin voilà, ouais, il y a des choses comme ça qui sont, et puis il y a des choses aussi un petit peu de l'enfance, de moi vécu par rapport à des choses, parce que ce garçon il va à son collège, mais il a des soucis avec des plus grands,
il se fait racketter,
voilà, et puis voilà, et puis en même temps il a ce côté, il trouve des solutions, et puis ce qu'il y a leur histoire avec sa maman, elle c'est un amour mais qui se dit en creux, on le dit jamais vraiment par pudeur, parce que voilà. Et puis aussi c'est les théories de Václavic de Palo Alto, c'est le plus qui fait moins, c'est-à-dire que c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est qu'en voulant aider sa mère, parce qu'en plus il est dans cet âge charnière, il y a une absence de père, il est en cherche de rites de passage, d'initiation, il manque de repères, etc. Elle est dans ce moment où, moi, les 13-14 ans, j'ai toujours pensé que c'était un moment crucial dans la vie. C'est le moment des vraies premières fois qui commencent, etc. Et là, en voulant bien faire, en réalité, c'est pire. Et il met sa mère encore plus en difficulté. Alors, juste une chose pour faire un lien avec le roman de Carole. Effectivement, il y a quelque chose de l'ordre des classes sociales. Dans La soustraction des possibles aussi, si on ne veut plus parler de classe sociale, on peut parler de catégorie. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est là, qui existe, et qu'on essaye un peu de gommer au nom du libéralisme, hein, parce que si on est tous égaux, il y a égaux dans le fait d'acheter, pas forcément d'un point de vue. Voilà. Et donc, il y a effectivement quelque chose d'assez fort par rapport à ça. Et je comprends parfaitement ton héroïne qui se retrouve face à cette fascination du... voilà. D'ailleurs, ça me pose question toujours. Là, moi, c'est la première fois que je suis invité à Brive. Ça fait 20 ans que je publie. C'est la première fois que je suis ici. Et puis voilà, il y a toutes ces maisons, à part les petites maisons régionales et tout, à part la mienne, Finitude, et peut-être la Talente à Nantes, toutes sont à Paris. Hein, ça pose question aussi. Pourquoi ? Est-ce que c'est les bibliothèques, c'est les Picasso au mur, etc. Et il y a quelque chose, quand vous voyez sur certaines thématiques abordées, des façons d'écrire, etc., c'est une forme de mimétisme. Qu'est-ce que ça signifie de devenir... Voilà. Et je pense que le parisianisme, à sa façon, est aussi une forme de localisme. Sauf que c'est lui qui possède le pouvoir. Donc, voilà.
Autre point commun, même si...
on n'entend pas les dans la salle.
Si, tout est rediffusé en direct, ils vous attendent à la sortie. Autre point quand même, si c'est de manière très différente, mais il y a dans vos deux romans des absents très présents, puisque dans votre roman, Joseph, le père de Léo, même s'il n'est plus là, est très présent à travers un objet notamment, puis une lettre aussi, et il accompagne à la fois Anna et Léo dans tout au long du roman.
La Sonia, elle est forte, hein. Parce que ça,
j'essaye de trouver les...
Non, mais c'est vrai, chez Blandine, il y a cette absence-présence chez Carole, pardon, ton héroïne qui finalement lie les deux autres. Et puis, effectivement,
avec
moi,
les
c'est
objets
le père.
Aussi, parce que dans votre roman, c'est uniquement la planche. Dans votre roman, Carole, je le disais, elle est partout. C'est-à-dire qu'il y a des photos, il y a les livres, il y a la collection de revolvers. Moi, déjà, ça me mettrait un petit peu la puce à l'oreille. Mais voilà, il y a aussi l'absence et les objets. Et comment est-ce que les absents continuent à motiver les actions des vivants?
Oui. Alors, en l'occurrence, pour Anna et Léo, ils vivent dans ce bungalow... Et dans la remise, il y a une planche qu'on appelle un gun. C'est des planches faites pour surfer des très grosses vagues. Et c'est une planche la réalité, il y a des shapers, c'est-à-dire des personnes qui construisent des planches de surf. Et ça, c'était la planche du père. Et puis c'est une planche qui vaut très cher. Et elle est là. Et elle est comme une sorte de relique. Mais c'est une sorte de on appelle un gun parce que c'est comme pour la chasse, ça veut dire arme, il faut un gros calibre pour surfer ces vagues parce qu'il y a une telle vibration qu'il faut. Et c'est une planche qui vaut cher et qui est là comme un objet fétiche et que Léo dit un jour, quand est-ce que je peux la surfer Puis sa mère dit, mais il y a un moment donné, mais c'est pas encore le moment. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, sa mère met cette planche au clou pour pouvoir, dans un magasin de surf, bon là, je vais le dire, de la canoë, pour pouvoir se faire prêter de l'argent. Et là, Léo, il passe tous les jours, enfin pas toujours, mais quasiment, voir dans la boutique, être sûr que personne l'achète. Il est voilà. Et bien entendu, comme disait Hitchcock, si vous faites un gros plan au début du film de quelqu'un qui met un pistolet dans un tiroir, puis vous refermez le tiroir, ce pistolet, il faut qu'il ressorte tôt ou tard. Hein ? On est bien d'accord. Donc voilà. Et ça, il y a des objets comme ça qui ont leur sens. Rien, je pense que si on est un peu attentif à ce qu'on fait, rien n'est laissé au hasard. Tu parlais de nécessité avant, ben voilà, les choses ont tout doit avoir un sens. Sinon, on se moque de vous et de nous-mêmes.
Carole, j'ouvre une parenthèse puisque il vient de citer Hitchcock. C'est peut-être l'occasion de parler un peu des réalisateurs qui vous ont accompagné aussi dans l'écriture de ce roman. Il y a Hitchcock évidemment, mais vous citez aussi Barbet Schroeder ou Polanski. De quelle façon est-ce que ces films, en l'occurrence Jeune fille partagerait appartement et Le locataire, ont pu vous accompagner dans l'écriture d'un roman? Et à quel niveau est-ce que là, on parle de films, mais j'imagine que ça peut aussi être des romans, à quel niveau est-ce que ça se concrétise ces influences? Parce que j'imagine que c'est quelque chose dont il faut aussi complètement se détacher. Voilà, comment est-ce que ces films vous ont accompagné dans la réalisation du livre?
Non, moi, c'est de façon... Effectivement, j'ai commencé le roman en voulant parler de cette histoire en mettant en scène deux romancières, parce que vraiment cette histoire de modèle, moi, me paraissait très important, et notamment pour les femmes, parce que là, on dit au salon, j'entends depuis hier, il y a tellement de femmes autrices, mais vous êtes beaucoup cette année et tout. Et vous avez des prix cette année, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est important, moi, je pense, comme dans mon livre précédent.
Tu dis Simone Liberati.
Oui. Merci de le souligner. Donc, il y a cette... Oui, voilà. Je pourrais parler de ça, mais en fait, c'était vraiment ça, moi, pour moi. Donc, parler aussi de ce, comme tu dis, cette absente, du coup, de ces écrivaines qui nous ont ouvert la voie et qui nous ont permis, en tant que femme, de s'autoriser. Dans auteur, il y a autoriser, et aussi à un moment donné, à prendre la plume ou à prendre le pinceau, enfin, à passer aussi soi-même à la création.
Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse dans la parenthèse, mais en exergue, vous dédiez ce livre aux autrices que vous aimez à jamais vivantes.
Voilà, par leurs écrits, forcément. Et voilà. Donc, et pour la question du cinéma, effectivement, c'est un livre... Donc, quand j'ai commencé à écrire, j'étais vraiment dans cet esprit-là. Et puis, en commençant à écrire, on me dit, mais ça ressemble vraiment... Il y a un petit air de Rebecca dans ton début de roman. Et Rebecca, c'est une référence que je n'avais pas. Franchement, Daphné du Maurier, je ne l'avais pas lu. Et comment dire, le film, j'ai immédiatement regardé le film de Hitchcock et j'ai lu le livre. Et puis je me suis dit non, je ne veux pas faire ça. Mais du coup, j'ai vu plein de Hitchcock à la fois. Et le film, moi, pour moi, c'est toujours assez. Je commence avec une idée et puis c'est assez mystérieux la façon dont ça se fait. Et les films sont venus comme ça. Mais c'est vrai que c'est un roman qui est truffé de scènes de films hitchcockiens. C'est vraiment parce qu'en fait, il est producteur de cinéma et spécialiste de Hitchcock, Thomas. Donc, il fait regarder des films. C'est une idée qui m'est venue après. Au début, il n'était pas du tout ça. Il fait regarder des films à la jeune Elsa. Il lui explique tous les ressorts des films de Hitchcock, etc. Et ça commence, du coup, à créer une ambiance aussi entre eux. Bon, bref. Qui va vers la manipulation, vers tout ça. Qui n'est pas du tout présente au départ. Et c'est vrai qu'il y a une scène, je pense, qui est forte dans le livre et qui m'a toujours, que j'ai toujours en souvenir et qui, je pense, on peut écrire un roman pour essayer de se réadapter à une scène qu'on a vue au cinéma ou de la réinterpréter ou d'en faire quelque chose. Et cette scène, c'était dans Jeune femme partagerait appartement de Barbet Schroeder. Effectivement, c'est une histoire de colocataire qui va prendre la vie et la place de sa colocataire jusqu'à adopter son apparence physique et aller avoir la même coiffure qu'elle, la même couleur de cheveux. Vraiment, c'est son double. Et l'histoire du double est féminin et du double littéraire et du double dans les films d'Hitchcock, enfin du double féminin dans les films d'Hitchcock qui est très, très présent par exemple dans Vertigo. C'était quelque chose, cette scène de mimétisme entre... Enfin, c'est un truc qui vient de loin, je trouve, de la copie conforme. Quand on est enfant, vouloir ressembler à quelqu'un, la question du modèle, vouloir imiter, même par son apparence physique, quelqu'un. Au départ, ça peut être juste ça, puis ça peut aller beaucoup plus loin. Ça, c'est très présent dans « Jeune femme partagerait appartement ». Et cette scène de où elle va chez le coiffeur, elle ressort, le spectateur ne sait plus qui est qui entre les deux actrices. Ça, c'est une scène vraiment... Je pense que le roman se construit autour de cette scène-là, qui est une fameuse scène où elle est dans la salle de bain et elle se voit dans le miroir et elle ne se voit plus, en fait. Parce que quand elle est dans cet appartement magnifique, Elsa, au début, tout va bien, c'est brillant, c'est joli, il y a des Picasso dans la cuisine, c'est vraiment le centre Pompidou en miniature, l'appartement. Et puis, plus elle s'installe dans cet appartement, et plus elle commence à développer des troubles du comportement, des troubles auditifs, notamment, et des troubles visuels. Et l'appartement qui est si magnifique va se refermer sur elle comme un piège, en fait. Et c'est ça qui va effectivement créer le suspense. Mais ça, c'est effectivement quelque chose qui a été, à travers ce film-là, à travers les films de Hitchcock et à travers un film de Polanski qui s'appelle Le Locataire, effectivement, pour ceux qui l'ont vu, où l'appartement va expulser son locataire jusqu'à le tuer et le pousser, le pousser au suicide.
Mais vous parlez justement de ce très bel appartement qui est un personnage à part entière, c'est-à-dire qu'il est extrêmement présent. Comment est-ce que vous l'avez imaginé? C'est-à-dire, est-ce que vous vous êtes fait un plan de l'appartement? Est-ce que vous le visualisiez totalement, cette table de nuit sur laquelle trône une photo de Béatrice, de Blandine, pardon? Elle se lève en voyant son visage, oui. Comment est-ce que vous avez pensé cet appartement et cette pièce, ce bureau dans lequel Elsa n'a pas le droit d'entrer?
Oui, pour le bureau, je suis partie de la fameuse chambre à soi dont toutes les écrivaines ont besoin depuis Virginia Woolf. Et donc cette envie, de quand on est soi-même écrivaine ou lectrice ou admiratrice de quelqu'un, de voir le lieu ou l'atelier du peintre, par exemple, enfin voilà, le laboratoire, comme tu disais tout à l'heure, elle a vraiment envie de voir son bureau qui lui reste interdit. Donc ça, c'était vraiment la pièce Barbe Bleue, quoi, du roman, et qui... forcément, il y a une porte qui est interdite. À un moment donné, on sait qu'on va la franchir et enfin la pousser. Ces petits escaliers.
Parce que Joseph, voilà. On montre la porte en disant que c'est interdit. Ça, voilà, c'est pas pour qu'elle reste interdite jusqu'au bout c'est et ça. Qu'on sache pas ce qu'il y a à l'intérieur.
Ça aurait été marrant qu'elle reste devant la porte pendant tout le roman, mais bon, ça aurait été moins. Et donc effectivement, l'appartement, je me suis inspirée d'appartements magnifiques où j'ai eu peut-être des vernissages à Paris ou des choses. Un grand appartement haussmannien dans un hôtel particulier avec des hauteurs de plafond et puis effectivement la présence. De cette autrice à travers toutes les photos partout, quoi. C'est-à-dire qu'elle se réveille le matin, Elsa. Alors au départ, elle est fan, donc tout ça lui va bien. Elle est contente de voir la photo de son écrivaine préférée. Si vous êtes fan d'un chanteur ou d'un acteur, tous les matins vous vous réveillez, vous avez son portrait en face de vous, vous êtes content. Puis quand vous commencez à avoir une aventure avec son ex-conjoint, son veuf, et puis que le temps passe au bout de quelques mois, le visage commence à prendre, et vous faites l'amour sous les regards, ça commence à prendre une autre. Et donc le lecteur voit le poids l'appartement qui devient un mausolée et qui va effectivement devenir très pesant et se refermer sur... Et elle-même, à un moment donné, elle dégage toutes les photos. Enfin, il y a une scène de violence aussi où elle ramasse tous les portraits. Elle ne supporte plus ce qui, pourtant, l'a attirée au début dans cet appartement, la présence. D'ailleurs, on ne sait à aucun moment, même je ne sais pas si on le sait à la fin du livre, si elle est dans cette histoire, ce qui l'a attirée. En fait, vraiment, l'amour est aussi entre Elsa et Béatrice, parce que finalement, il y a même une scène presque homosexuelle où ce qui l'attire, elle, au-delà du veuf, c'est vraiment Béatrice.
C'est Béatrice et c'est l'amour de Thomas et Béatrice. C'est-à-dire qu'elle se dit, si Béatrice l'aimait à ce point, moi, je ne peux que l'aimer. Moi aussi, je veux connaître cet amour qu'ils avaient. Joseph, je vous ai coupé dans un élan.
Ça me donne... Il faudrait prendre des notes parce que ça me donne rebondir, comme on dit. Hein. Non, mais sur enchaîner... Tu me fais penser à Brian De Palma aussi, on peut oublier, moi je suis un immense réalisateur qui, sur le double, il est là jusqu'à faire même des écrans partagés, hein, des split screens, mais il y a Body Double aussi, ouais, c'est aussi un personnage. Et puis, effectivement, je crois que quand on commence à écrire, vu qu'il n'y a pas d'école, on lit et puis on s'y met. Et puis voilà, c'est pour ça que j'appelle l'écriture l'art du pauvre. Il n'y a pas de conservatoire, pas d'école d'art. Et puis c'est vrai qu'il y a le processus d'imitation réellement. Moi, à une époque, je voulais écrire comme. J'avais des tournures à la Philippe Djian. Après, je me mets en tête Hemingway. Et puis après, petit à petit, on trouve sa voix, on trouve son style, on se dépouille, on tue plein de pères ou de mères. Et puis c'est ce que peut espérer un écrivain, c'est trouver sa propre voix, ce qu'on appellerait le style, hein, sa façon de raconter à soi. Comme on aurait notre propre... On trouve sa voix, son timbre. Et juste une chose, c'est que tout d'un coup, Léo trouve... Parce que là aussi, toi, tu dis, t'as lu Rebecca de Daphné du Maurier. Moi, j'avais jamais lu Vipère au point parce que j'ai fait les écoles en Suisse. Alors, c'est pas un classique de voilà. Et je trouve Bazin, c'est que ce roman est magnifique. Il est vraiment... C'est vraiment génial. Et donc, Léo a un contrôle sur... Et Léo découvre petit à petit le plaisir d'écrire sur une dissertation. Et ça va l'amener à faire une chose en lien avec l'écriture. Le problème, c'est que c'est un roman où très vite, on peut tout révéler. Et c'est le pouvoir de l'écriture. Qu'est-ce que ça peut induire après dans le réel? Parce que moi, je suis convaincu que tout ce qu'on vit dans le réel et ce qu'on vit dans notre imaginaire sont deux choses absolument mélangées. Et on peut éprouver des choses très fortes, et la plus souvent, le manque d'amour. Pourquoi, au fond, hein? Ça n'existe pas, l'amour, hein? Ben, pourtant, non. Hein, on est... Ben voilà, bien sûr que ça existe. Et, bien sûr... et donc, voilà, l'influence de ce qu'on fait en écrivant qui peut avoir des conséquences sur... Voilà, on a écrit un bouquin, puis là, on est face à vous aujourd'hui. On est dans
et moi, il y a quelque chose de très beau parce que vous parlez d'écriture et des autrices et des auteurs qu'on lit, qui nous accompagnent. Et Carole, c'était dans un entretien sur France Culture, vous avez dit, c'était au micro d'Arnaud Laporte, il me semble, quelque chose que je trouvais très beau sur l'idée que la littérature était en fait pour vous une grande discussion et qu'en fait, écrire un roman, c'était toujours répondre à un autre texte. Et donc, on s'inscrivait finalement dans un échange avec toutes ces autrices, tous ces auteurs qu'on aimait. Vous avez vraiment ce sentiment quand vous écrivez que vous engagez à la fois avec les lectrices, les lecteurs et avec celles et ceux qui vous accompagnent à travers leurs écrits, que vous engagez, vous participez à une immense discussion.
Ben, oui, c'est vrai que je suis avant tout une lectrice et je pense que comme quand j'étais peintre, il faut beaucoup aimer la peinture et beaucoup avoir ressenti la peinture pour pouvoir peindre et avoir envie soi-même de transmettre des choses par la peinture. Et pour l'écriture, j'ai l'impression que c'est pareil. Il faut avoir beaucoup lu et avoir éprouvé le poids des mots, la force des textes sur soi pour avoir envie, connaître cette influence, cette force et avoir envie à soi-même de créer avec, d'autres émotions avec ces mots. Et pour moi, effectivement, chaque texte, c'est pour ça que je parle vraiment de l'influence d'autrice, c'est vraiment des écrivaines, parce que j'ai lu effectivement beaucoup aussi de littérature. Bah voilà, c'est vrai que Gilbert Aupoin, c'est quelque chose qu'on a lu quand on était ado. On a plus ou moins tous les mêmes lectures de collège, de lycée, et il y avait effectivement beaucoup d'hommes de plumes masculines. Et à un moment donné, mais c'est aussi à des plumes masculines que je réponds de toute façon. Mais c'est vrai que j'ai l'impression, quand j'écris des romans, que j'ai toujours en tête d'autres romans qui ont ouvert des questions en moi. Et chaque roman pourrait être une question, une réponse, enfin pas une réponse, une nouvelle question qui vient en tout cas continuer un dialogue. J'ai l'impression que les romans qui existent dans nos bibliothèques sont comme des amis avec qui on peut avoir des bribes de conversation et qu'on peut, d'ailleurs quand on lit, on a cette conversation parce que le lecteur est quand même très actif en lisant, mais il n'est pas un simple réceptacle. Et chaque lecteur, moi, voit des choses différentes dans la relation entre les trois personnages. Aucun lecteur ne lit le livre de la même façon. Et après, au niveau de la forme, tu parlais tout à l'heure que tu cherchais le rapport entre forme et fond, et que là, quand tu avais trouvé ça, ça y est, tu avais le roman qui pouvait commencer. Je ressens ça aussi tout à fait. Et c'est vrai que la forme, souvent, et le fond, c'est aussi quelque chose qui vient répondre à chaque fois. Par exemple, je pense à un livre que j'avais fait il y a quelques années qui s'appelait Une femme au téléphone, qui était très inspiré, même si j'avais mis une phrase d'elle en exergue, mais sinon, je pense que personne ne s'en serait rendu compte, d'un livre de Valérie Mrejane qui s'appelait Au sauvage. Par la forme, par le style, même si c'était au téléphone, voilà, c'était une façon très, très spécifique d'écrire, parce que c'était sur les relations mère-fille, donc c'était que des conversations téléphoniques. Et à chaque fois, je suis dans le lien avec un, deux, trois, quatre textes, toujours, même au niveau des titres. Je trouve qu'on est vraiment, quand on écrit, on a toute l'histoire de la littérature ou tous les auteurs qu'on aime qui sont autour de nous. Et d'ailleurs, quand on est auteur, il y a des auteurs qui nous aident à écrire, je trouve. Il y a aussi des auteurs qui... Je connais des gens qui ont, par exemple, fait des études... moi, je n'ai pas fait d'études de lettres. Et des gens qui sont complètement écrasés aussi par le poids de la littérature. Donc, ça peut devenir dangereux, à un moment donné, d'avoir trop lu, d'avoir trop analysé les textes. Ça peut devenir quelque chose de bloquant. Et voilà, donc... par exemple, Nathalie Sarraute, pour moi, c'est quelqu'un, à chaque fois que je la lis, une page, deux pages, j'ai immédiatement envie d'écrire, de lui répondre, en fait. Enfin, c'est comme s'il y avait quelque chose à continuer, un petit peu comme ces exégètes qui continuent sur les pages. Il y a vraiment de ça dans l'écriture. C'est aussi continuer, effectivement, un grand texte, qui est le texte de la France aujourd'hui, des écrivains français et puis européens, je sais pas, ou américains d'aujourd'hui. On a envie de répondre à tout le monde.
Vous parliez de la forme du texte. Dans votre précédent roman, Thierry Bantine, vous employez le « tu » pour vous adresser à l'étudiante que vous étiez aussi. Là, votre texte est écrit à la troisième personne du singulier. Qu'est-ce qui préside à ce choix? Qu'est-ce qui fait qu'on va dire « je »,« tu », »,« il », »,« elle » Est-ce que c'est quelque chose qui vient spontanément? Est-ce que c'est le fruit d'une réflexion? Est-ce qu'il arrive que ça change en cours de route? Voilà, comment est-ce que vous choisissez le mode d'énonciation?
Oui, tu, pour le tenir jusqu'à l'aube, c'était pour quel livre? C'était pour, effectivement, Térébenthine. C'était effectivement trois étudiants aux Beaux-Arts, donc c'était particulier. C'était un tu qui s'adressait à des étudiants aujourd'hui. Je ne sais pas, c'est un tu qui s'est imposé, vraiment, là. Je l'ai écrit comme ça. Et c'est aussi un tu qui s'adressait peut-être à la jeune étudiante que j'étais, qui a fait les Beaux-Arts aussi. Et qui fonctionnait assez bien, je trouvais. Mais des fois, ça peut effectivement. Je pense que pour dire, on peut parfois, ça m'est déjà arrivé sur certains romans, tester le il, le elle, le je, même le nous, pourquoi pas. Enfin, voir ce qui pourrait. Mais ça, je pense qu'on teste quand ça pose problème, quand ça s'impose et que c'est évident. Mais c'est vrai que le choix du pronom personnel peut être très important. Effectivement, il y a plein de choix qui se posent quand on écrit. Et celui-là est très très important parce qu'il peut changer complètement, effectivement, la. Enfin, l'énonciation peut complètement changer la portée du roman et même la. Ça...
C'est la question du point de vue qui se pose. Hein, si... Est-ce que vous êtes là? Oui, les narrations internes, externes, hein, ce genre de choses. Mais Moi, par exemple,
vous mixez un peu les deux dans celui-ci, c'est-à-dire que c'est à la troisième personne, mais de temps en temps, il y a du tu. Et puis, vous englobez un petit peu aussi les lectrices et les lecteurs. À un moment, vous décrivez justement le bungalow et vous écrivez « La lumière du jour nous permet de mieux voir le bungalow où vivent Anna et Léo ». Et d'un seul coup, bah, ouais, on est inclus totalement dans votre,
voilà,
dans votre écriture.
Après, il y a des choses qui se mettent comme ça. Dans le précédent livre, j'avais même été où je m'adressais moi-même, même en tant que Joseph, non pas en tant que narrateur, à mes personnages. Hein. Après, il y a des choses comme ça qui peuvent vous aiguiller. Mais voilà, après, ça, c'est aussi des choses qui se mettent en place avec, on va dire, l'économie du roman. Enfin, il y a des choses qui font que, tout d'un coup, effectivement, là aussi, une ou deux fois, je m'adresse à Léo, je lui dis... Enfin, le narrateur s'adresse à Léo, il dit, et là, tout d'un coup, il y a un tu qui arrive, donc... C'est aussi des changements de rythme, des changements de valeur de, si on veut parler cinéma, valeur de plan. Hein, un gros plan, on se met un peu plus loin. Voilà. Je pense qu'on a, dans le cadre, dans les limites posées par la grammaire, la syntaxe et tout, on peut parfois aussi se permettre des choses, sortir un peu du cadre. Après, il y a aussi une chose importante, c'est savoir si on écrit au présent, où on raconte une histoire, ou éventuellement on pose des choses au futur. Ça aussi, ça détermine pas mal de choses, l'immédiateté du temps, de l'indicatif présent, ou bien de l'imparfait, enfin du passé. Donc voilà, ça aussi, ce sont c'est des choses matérielles qui sont en lien avec l'écriture, mais qui vont déterminer pas mal de choses. Effectivement, si vous commencez en jeu... Il y a beaucoup de choses qui vont. Voilà. Après, vous pouvez faire un chapitre en jeu, un autre en nous. Voilà. Après, là-dedans, on peut varier, heureusement.
Et je parlais du bungalow. J'ouvre à nouveau une toute petite parenthèse. Mais on parlait des lieux tout à l'heure. Et vous disiez que vous vous êtes inspiré notamment de votre fils pour le personnage de Léo, et le bungalow dans lequel habitent Anna et Léo. Vous le connaissez aussi très bien.
Oui,
c'était facile pour vous de le décrire.
Oui, parce que ça fait une quinzaine d'années que je loue toujours chaque année, au mieux dans un coin très sauvage, ce bungalow-là, qui est un truc, vous savez, en plastique de chez O'Hara. Vous voyez ces bungalows avec. Et alors c'est clair que c'est un peu chez moi, donc j'y passe un mois par an, donc je sais pertinemment où sont les choses, donc je visualise très bien, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein, et ça ne veut pas dire que c'est mieux décrit forcément parce que vous connaissez l'endroit qu'un lieu imaginé, parce que de toute façon il y a toujours une déformation dans la mémoire, vous déforme un peu plus grand ou plus petit, enfin voilà. Donc, mais c'est vrai que le lieu, je l'habite, donc c'était à ce niveau-là. C'est pas plus ou moins facile de décrire un lieu parce que vous l'avez vécu ou pas, mais enfin, toujours est-il qu'il est, on va dire qu'il est incarné, voilà.
On parlait tout à l'heure des personnages les puissants de votre roman. Carole parlait de manipulation, puisqu'il est question de manipulation aussi dans ce roman. Joseph, on se pose la question justement de qui tient les ficelles avec ce jeu où c'est donc un concessionnaire qui demande à la présidente, lui il voit qu'il y a 27%, il a perdu 27% de chiffre d'affaires sur un an, il se dit je veux organiser ce jeu mais il faut que ce soit diffusé sur les télés publiques, il faut qu'il y ait un appui politique, et c'est là où notre fameuse reine des abeilles lui répond. Et je vous cite, la transition écologique était le cheval de bataille de mon élection et vous me demandez de soutenir un concours où on remporte un 4x4 hyper polluant, c'est ça? Et donc le concessionnaire lui répond, c'est exactement ça, oui. Et un peu plus loin, il lui dit encore, vous vous occupez de vos bobos et moi de mes prolos. Mais face à la menace de la délocalisation, d'un seul coup, que peut le politique face au pouvoir économique, même si elle va essayer justement de jouer ce jeu et de le retourner. Mais en tout cas, on voit bien à travers ces scènes à quel point, c'est ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure, mais à quel point le politique n'est rien face à ces puissances-là, en fait.
Mais oui, parce que, enfin, il y a cette présidente que j'appelle la reine des abeilles, et puis le roi lion, qui est l'équivalent d'un Carlos Ghosn. Hein. Alors imaginons aujourd'hui, je ne sais plus maintenant qui lui a succédé à Carlos Ghosn, mais qui va voir Macron, qui lui dit, voilà, est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que vous voulez 50 000 chômeurs, plus leurs familles, plus... Ben voilà, qui possède le pouvoir aujourd'hui? Je pense que l'économique, le CAC 40 possède plus de... Voilà. Après, il faut trouver peut-être potentiellement des alliés dans le domaine politique. Mais, et puis même, même l'économique a perdu du terrain face aux financiers, qui est encore autre chose. Et alors voilà, il y a ce jeu très cynique. Et ces chiffres de 27% sont réellement les chiffres de Renault-Nissan d'il y a un an ou deux. Et voilà, et donc il y a besoin de la chaîne, des chaînes publiques pour rentrer dans les foyers de manière. Et donc
16 millions de téléspectateurs pour la finale, quand
voilà,
même.
Voilà, et puis en même temps, il y a réellement du public sur place, dans le lieu, etc., où ça se fait. Donc, ça, c'est des vraies questions qui m'ont toujours interpellé. C'est toujours en prise avec le réel et avec des questionnements sur notre monde, qui possède le pouvoir. Et puis, on voit qu'en même temps, cette présidente, elle est maligne parce qu'elle dit OK, je suis obligée de me plier, mais je vais essayer de trouver, tirer mon épingle du jeu.
Et là, on entre dans un ciment social.
Voilà. Et là, on rentre dans l'idée de manipulation et il y a quelque chose qui s'inscrit en filigrane et qui va arriver. Et voilà. Et la manipulation, elle est là. Mais c'est comme avant, quand on choisit des concurrents, on doit toujours être très vigilant avec un mot très beau qui aujourd'hui est galvaudé, celui de populisme. Mais voilà, c'est ça aujourd'hui. C'est que comment on fait arriver les gens où on veut arriver, en les flattant, en leur promettant. C'est pareil, c'est exactement ça. Donc on est ponctuellement dans ce côté un peu derrière les coulisses, ces gens qui se réunissent et qui décident, OK, comment on va manipuler tout ça, Et voilà, et c'est un peu triste, mais en même temps, on peut voir ça comme un théâtre, essayer de s'en amuser aussi.
C'est ce que vous faites très bien, puisque c'est à la fois cynique, il y a beaucoup d'humour.
L'ironie, je crois que c'est une grande arme qu'on peut avoir pour poser de la distance par rapport à ce qui nous arrive, effectivement.
Carole, on parle de manipulation. Quand on raconte un récit où il est question de manipulation, et on va essayer de ne pas trop en dire, parce que j'ai envie que les gens qui sont présents aujourd'hui aient le plaisir d'être surpris par votre roman, mais cela implique forcément, et disons le thriller de manière plus générale, d'avoir une idée très précise d'où on va. À un moment, il est question où Elsa s'interroge sur comment est-ce qu'on construit un roman, est-ce qu'on a un plan, est-ce qu'on avance à l'intuition sans avoir de plan préétabli. Quand on se frotte à ce genre bien particulier, on est obligé de savoir exactement où vont les personnages et comment est-ce que les choses vont se retourner. Est-ce que c'était le cas pour ce roman, j'imagine, et est-ce que c'est le cas à chaque fois? Est-ce que vous savez à chaque fois exactement où vous allez, ou bien est-ce qu'il vous arrive de vous lancer dans l'écriture en vous disant je me laisse porter, je sais que j'arriverai quelque part, mais je ne sais pas encore où?
Oui, non, je pense que pour pouvoir commencer, il faut avoir une idée de la fin. Kant dit l'art est une finalité sans fin, et je trouve que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va dans une direction, c'est comme quand on part en voyage, on dit je pars en Inde, puis finalement peut-être qu'on prend son sac à dos, si on ne prend pas l'avion en tout cas, et puis finalement arriver ailleurs parce que des rencontres vont nous faire atterrir ailleurs. Imaginons qu'on... Voilà, et l'écriture c'est pareil, je pense qu'il faut avoir une idée de l'endroit où on va, donc une idée de fin, un plan quand même, surtout quand on écrit un thriller, enfin... pour savoir un petit peu comment on va construire tout ça. Et puis finalement, en écrivant, dans l'écriture, l'aventure de l'écriture, c'est ça. Sinon, ça serait mortellement ennuyeux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des choses vont apparaître, des nouvelles lignes, et on va être emmené par les personnages ou par l'histoire, ou par on va se rendre compte que ça va mieux en passant par là, finalement. Et le roman va nous emmener ailleurs, va nous déporter ailleurs, et c'est ça c'est ça la création, c'est ça qui est intéressant. Mais effectivement, si au départ on n'a pas d'idée où on va, c'est comme quand on se met devant une toile blanche et puis qu'on ne sait pas ce qu'on va peindre, on reste comme ça. Il faut à un moment donné avoir une petite idée, même si on veut faire un blanc sur blanc, il faut quand même avoir l'idée que ce sera un monochrome blanc sur blanc. À un moment donné, il faut que ça passe quand même. Donc même si finalement on fait autre chose. Donc ça, c'est vrai qu'à chaque fois, pour chaque roman, c'est toujours différent. En fait, il n'y a pas de règles pour moi. Mais c'est vrai que le fait de faire des plans, ça peut aider aussi. Parce que ça enlève l'angoisse de la page blanche. On est quand même même si c'est quelque chose qu'on ne va pas suivre, c'est important de l'avoir comme soutien. Voilà.
Joseph, vous faites des plans?
Moi, c'est non. Alors, il y a cette histoire du sujet qui s'inscrit. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en souterraine, qui sont là. Et ensuite, c'est comme une boule de neige qui grandirait. Et puis, quand je commence à vivre avec mon histoire, j'ai des... C'est la part immergée de l'iceberg. Des fois, je plaisante, je dis oui, si on me croise en train de boire une bière à une terrasse, en fait, je suis en train de travailler. Mais oui, parce que c'est... Et alors, à partir de là, il y a des choses, il y a des notes, on prend un truc. Et puis, c'est vrai que pour ce roman-là, spécialement, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis à moitié du roman et je ne sais pas comment finir. Il faut que je trouve une fin qui soit en adéquation. Il y a des choses qui se dessinaient, etc. Parce qu'il y a une fin binaire, c'est elle gagne la voiture, elle ne gagne pas la voiture. Voilà. Bon, on est dans une société 0-1 du binaire. Hein. Mais comment trouver d'autres voies? Et voilà, et ça, c'est quand je l'ai trouvé, j'ai terminé le roman en 6 semaines. Quoi. C'est que je freinais l'arrivée parce que... Et effectivement, de savoir... Le précédent roman, je pensais qu'il finirait... Alors ça, c'est ce que tu dis. À un moment donné, c'était clair. Et puis tout d'un coup, c'était complètement différent. Donc voilà. Après, je crois que ça, c'est vraiment... Et heureusement, chacun de nous a sa façon de travailler, de ce qui n'est pas du tout le cas de la scénarisation, par exemple, parce qu'on doit, que ce soit au niveau de la BD ou du cinéma, on doit proposer quelque chose, parce qu'il y a de l'argent, il faut qu'il y ait quelque chose qui... Mais dans le roman,
plus
on a
dans
encore...
le cinéma que dans la bande dessinée.
Oui, bon, après, il y a la façon de fonctionner aussi. Mais par exemple, dans le cinéma, vous ne pouvez pas arriver avec un projet, sauf Godard faisait ça, où vous ne savez pas ce que vous allez faire, peut-être le jour même sur le plateau. Hein. Voilà, donc vous devez proposer. Mais là... on a encore ce grand espace de liberté où aussi le temps est assez relatif. C'est-à-dire que vous pouvez aussi avoir... on dit, OK, on va publier tel... Puis 6 mois avant, on décale parce que vous êtes en retard, vous n'arriverez pas à faire... Donc voilà, c'est l'absolue liberté de travail et de façon de fonctionner et au rapport au temps.
C'est beau. Oui,
oui, c'est drôle parce qu'hier soir, j'ai eu une discussion avec Lucas Bellevaux qui est présent sur le salon, qui est un réalisateur... Pour ceux qui le connaissent, Lucas Bellevaux, qui disait que là, il avait écrit un roman et que c'était génial, cette liberté absolue qu'il avait découverte en écrivant le roman par rapport au cinéma. Et qu'il continuera d'écrire parce que c'est... Alors pour moi, c'était vraiment... le cinéma, c'était l'étape d'au-dessus, l'aboutissement. On rajoute les leçons, la lumière, l'image. Et lui, il était... Non, la liberté absolue, c'est le roman.
C'est beau de terminer sur la liberté absolue. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des questions? Je vois qu'il nous reste quelques toutes petites minutes. Non, pas de questions? Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci infiniment.
Merci Sonia, merci à vous.
Et bonne journée.